La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidimet sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 26 mars 2026. Ici, les pages pâles, les plumes vibrent et les voix féminines redessinent les contours de notre imaginaire collectif. Comme l'écrivait Victor Hugo, je cite, « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Fin de citation. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Car lire une femme africaine, c'est entrer dans un univers où le charme n'est pas faiblesse, mais puissance subtile. Notre thème de ce jour est, je cite, « Plume de charme et de puissance quand la femme africaine réécrit les codes de la littérature » à travers le regard de notre invitée Pauline Ongono, camerounaise bibliothécaire de formation, présidente acolyte. Nous allons interroger les thèses, déconstruire les évidences et comprendre comment la femme africaine, longtemps racontée, est aujourd'hui celle qui raconte, qui dérange. Mais dans cette dynamique, comment ne pas faire un clin d'œil à Carmen Toudounou, dont la récente consécration à l'échelle africaine vient rappeler que les plumes féminines ne murmurent plus, elles résonnent. Fidèles auditeurs, installez-vous aisément et prenez le cachet littéraire en apéritif. Nadia, bonjour.
Bonjour Enoch.
Comment vous allez?
Je vais très bien.
Alors, dites-moi tout.
Amoureux des mots, explorateur de l'imaginaire, passionné de l'encre et du verbe, bonjour et bienvenue dans votre cachet littéraire, un espace dédié à la découverte, à la réflexion et à la célébration des œuvres et de celles et ceux qui les font naître. Installez-vous confortablement, le voyage littéraire commence à présent. L'actualité des lettres s'ouvre aujourd'hui sur une distinction majeure. Elle vient consacrer une plume béninoise, pas des moindres. Une plume qui façonne la littérature béninoise et la porte au-delà des frontières. Florent Raoul Kouaouzouti, écrivain aux multiples facettes et actuel conseiller technique à la culture du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'épistolier avec son ouvrage Cotonou, ni d'artiste sacré prix du beau livre au Salon du Livre africain de Paris 2026. Dans le ventre de ce livre, l'auteur peint un portrait vibrant de Cotonou, une ville foisonnante, une ville entre effervescence artistique et réalité urbaine où se croisent les imaginaires et les trajectoires humaines. Une œuvre qui invite à redécouvrir la capitale économique béninoise sous un regard à la fois sensible et profondément esthétique. Et de deux en termes de reconnaissance de la plume béninoise, le Bénin se démarque davantage. Une autre voix de la littérature béninoise, cette fois-ci féminine, se fait entendre dans le Conseil de la littérature africaine d'expression française. L'écrivaine Carmen Fifame Toudounou s'est distinguée au Grand Prix Afrique 2025. Son roman Paria a été salué par la mention Scheherazade. L'œuvre plonge le lecteur dans la marge, dans les marges sociales et les blessures intimes en donnant voix à des existences souvent invisibles mais percées par une écriture à la fois sobre et percutante. Une plongée dans les réalités humaines qui questionnent, dérangent parfois mais surtout interpellent. S'il y a des reconnaissances à l'international, au plan national, les écrivains reconnus ou non vivent autrement leur passion. Fousseni Tanko Bana Koroji, lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin 2024, avec son roman Confluence, est l'invité au café littéraire Mono Koufo. Durant les 27 et 28 mars, dans plusieurs localités, notamment Grand Popo et Aplahoué, le fils de la cité des Pétonis va converser avec les amoureux du livre de ces villes. Il reviendra probablement sur le regard frappant de la société sur les femmes confrontées à la stérilité et aux pressions sociales qui entourent la question de la maternité. Dans la même dynamique de partage et de proximité, un autre rendez-vous. La librairie Terra Plume accueille le samedi 28 mars à 15h à Godomé une nouvelle édition de Rencontres littéraires. L'autrice Emmanuelle Bernic Laleye, deux fois finaliste au Grand Prix littéraire du Bénin, l'écrivaine y présentera son ouvrage Enfant messager, une œuvre qui convoque les dimensions sensibles de l'enfance entre transmission, spiritualité et quête de sens. Ainsi se présente la charpente de votre cachet littéraire, votre escale au cœur de l'actualité des livres et des lettres. Merci de votre fidèle écoute et surtout n'oubliez jamais, un livre ouvert est toujours une porte qui s'ouvre sur le monde.
Merci Nadia, merci pour ce travail. Je l'avais annoncé. Plume de charme et de puissance, quand la femme africaine réécrit les codes de la littérature, est l'épine dorsale de votre émission de ce jour. Avant de mettre le pied à l'étrier, écoutons ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducaction.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour échanger avec Pauline Ongono, camerounaise, bibliothécaire de formation, présidente acolyte, relettrice. Et le thème de ce jour est « Plume de charme et de puissance quand la femme africaine réécrit les codes de la littérature ». Pauline, bonjour.
Bonjour Monsieur Kijimé, merci infiniment de me recevoir à votre émission. Bonjour aussi aux auditeurs.
Alors, le charme en littérature est-elle une qualité intrinsèque du texte ou une construction du regard critique et du lecteur ?
À mon humble avis, on peut parler d'un imaginaire du charme historiquement, dans une large mesure même. Parce que pendant longtemps, les canons littéraires africains publiés et étudiés ont été dominés par des acteurs masculins. Et donc ce qu'on appelle le beau style était souvent associé à la grandeur narrative, à la fresque historique, à la satire politique ou encore l'épopée nationale. Et ce modèle a façonné une idée du charme liée à la puissance du récit collectif. Vous voyez. Donc les écrivaines, d'Afrique contemporaine ne rejettent pas cet héritage-là. Elles le déplacent au contraire. Donc elles investissent d'autres territoires. Elles sont plus intérieures. Donc elles visitent l'intériorité. Elles visitent la mémoire intime, les silences domestiques, les émotions contenues. Toutes ces choses qui paraissaient taboues avant, aujourd'hui, les femmes mettent cela au vu et au su de tout le monde. Et donc elles se réapproprient le charme en le rendant pluriel, moins incarné, moins monumental, piédestal, mais elles le rendent vraiment pluriel, ça devient l'affaire de tous.
Peut-on parler d'un imaginaire du charme historiquement façonné par des plumes masculines, puis réapproprié aujourd'hui par les femmes?
Le charme littéraire n'est jamais totalement contenu dans le texte, hein, comme une propriété chimique stable. Il naît en fait d'une rencontre, celle d'une écriture avec une sensibilité, un contexte culturel, une époque, des attentes esthétiques et bien plusieurs. Un style peut paraître envoûtant pour un lectorat et neutre pour un autre. C'est ça aussi les joies de la littérature. Les rythmes, les images, la musicalité d'une langue, la subtilité même, hein, psychologique, psychique, sociale, peuvent produire des effets potentiels différents. Mais c'est parce que c'est le lecteur qui l'actualise en fait. Parce qu'un lecteur lit et perçoit le message selon sa situation, selon ce qu'il attend en fait de la lecture. Donc la critique elle aussi façonne la perception. Parce qu'en consacrant certaines œuvres comme élégantes, comme sensibles ou raffinées, chefs-d'œuvre, ça va de soi que la critique construit des normes du charme. Et donc le charme est à la fois une promesse du texte et une projection du regard.
Quand vous comparez des auteurs comme Chinua Achebe ou Mongo Betty à des voix féminines comme Mariam Abba, observez-vous une différence dans la manière de produire du charme?
Pour faire une comparaison à mon niveau, hein, je dirais que chez Chinua Achebe ou alors chez Mongo Betty, le charme passe souvent par l'ampleur ou la grandeur narrative. C'est-à-dire il y a une grande densité symbolique, il y a une maîtrise de la satire politique. Leur écriture peut séduire par la force du regard social sur comment est-ce qu'on vit son environnement, j'ai envie de dire comme ça, sur la construction des univers collectifs. Par contre, chez Mariam Abba, le charme opère autrement, c'est-à-dire il y a un peu plus de finesse, de délicatesse, d'intériorité, de l'émotion même. Et à ce moment-là, l'intime devient un espace politique, vous voyez un peu. Il ne s'agit plus de satire, il s'agit d'intimité ici. Et la séduction du texte chez Mariam Abba ne repose pas seulement sur une fresque historique, vous voyez, mais plutôt sur la vérité des voix intérieures. Et vous voyez que là, on revient sur l'intériorité que j'ai citée plus haut, parce que les femmes ont décidé effectivement de mettre à nu toutes ces choses-là qu'on disait, toutes ces choses qui étaient un peu comme des tabous. Donc ce n'est plus une hiérarchie de valeurs, mais une différence d'angle esthétique. Donc les deux premiers, c'est-à-dire Chinua Achebe et Emongo Petit, exposaient un regard social, un regard cru, j'ai envie de dire comme ça, mais Maria Maba l'expose de manière crue aussi, mais crue avec finesse, si je peux dire ça comme ça.
Le charme dans les œuvres masculines africaines passe souvent par l'épopée, le récit social ou politique. Chez les femmes, passe-t-il davantage par l'intime et l'émotion ou est-ce une lecture biaisée?
Oui, la littérature chez les femmes passe davantage par l'intime et l'émotion, ça c'est vrai, c'est un fait, d'ailleurs je l'ai déjà relevé. Est-ce que c'est une lecture biaisée? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est en partie une lecture héritée des différents stéréotypes de la société. Beaucoup d'autrices explorent l'intime, comme on l'a déjà dit, mais l'intime n'est pas l'opposé du politique, attention. C'est une autre scène, en fait. Les expériences du mariage, par exemple, de la maternité, du corps qui change, de l'exil, du silence social, relèvent des structures de pouvoir tout aussi fortes que les récits de guerre ou d'indépendance. Vous voyez un peu, le foyer aussi est un milieu politique. Donc réduire les écrivaines à l'émotion, ce serait quand même minimiser la portée politique de leurs œuvres. Parce que tout ça, le foyer, l'armement et tout ça, c'est de la politique maintenant. Chacun des auteurs, chacune des autrices utilise le pan qui sied le mieux et qui pourrait nourrir le mieux sa plume.
Peut-on dire que certaines œuvres féminines ont désacralisé le regard masculin sur l'amour, la femme ou la société?
C'est indéniable, hein? C'est indéniable. Plusieurs œuvres féminines d'avant, d'aujourd'hui, ont effectivement désacralisé le regard masculin sur l'amour, la femme ou la société. De nombreuses écrivaines, comme par exemple Djaïli Amadou Amal, exposent la femme non plus comme un objet de désir, ou alors une muse, un symbole national, comme c'était le cas à ce moment. Mais l'amour aujourd'hui cesse d'être idéalisé dans les livres. Il est montré dans ses rapports de domination, dans ses différentes contradictions et ses blessures. Et cette désacralisation-là est une reprise de pouvoir narratif, parce que maintenant on raconte depuis soi plutôt que d'être raconté. Là, c'est la différence.
La notion même de littérature féminine est-elle pertinente ou enfermante d'un point de vue critique?
Pertinente ou enfermante? Non. Ce serait quand même être un peu brutal, non? Je dirais qu'elle est au milieu. Elle est ambivalente, on va dire comme ça. Elle est ambivalente et elle est surtout pertinente lorsqu'elle permet de rendre visibles toutes ces voix longtemps marginalisées. Et aussi enfermante parce qu'elle réduit ses œuvres à un genre à part, comme si elle n'appartenait pas pleinement à la littérature universelle. Et le risque de l'étiquetage, c'est-à-dire parler de littérature féminine, là où on dit simplement littérature pour les hommes, ça pourrait contribuer justement à ce volet enfermant-là. Mais je pense que c'est vraiment ambivalent, comme je l'ai dit, parce que c'est au lecteur de choisir. Lorsqu'on parle de littérature féminine, ça ne signifie pas que c'est une littérature qui va être écrite uniquement par les femmes non plus. Un homme aussi peut décider d'écrire sur des problèmes rencontrés par des femmes. Vu que nous côtoyons tous les jours, ça veut dire qu'il y a des hommes qui voient ce que les femmes subissent et qui peuvent décider, voilà, d'écrire sur ces sujets-là. Donc je pense que c'est plutôt ambivalent, c'est 50-50, pertinente et aussi enfermante.
Le charme associé aux femmes écrivaines est-il une manière subtile de minimiser leur puissance intellectuelle?
Qu'on le veuille ou pas, que ce soit à l'époque ou alors à notre époque, lorsqu'une femme touche à quelque chose, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus de délicatesse, vous voyez. On a l'impression que c'est mué par uniquement l'émotion, par trop de sensibilité, vous voyez un peu. Donc, les qualificatifs changent dans tous les cas. Les qualificatifs diffèrent lorsqu'une femme touche quelque chose et lorsqu'un homme touche à la même chose. Là où on parlera de délicatesse ou de sensibilité chez les femmes, chez les hommes, on parlera par exemple de maîtrise ou de puissance conceptuelle. Ça c'est une réalité en fait. C'est une réalité parce qu'on estime toujours que la femme, si par exemple elle parle des problèmes de femmes, elle est automatiquement une féministe, elle est automatiquement celle-là qui veut défendre dans la sensibilité, par rapport à la sensibilité qui l'anime. Et pourtant, quand un homme écrit, on va dire, voilà, un homme peut aussi écrire, un homme a aussi, si, il a la puissance conceptuelle, il a maîtrisé le cadre conceptuel de son livre, il a maîtrisé l'environnement, il a maîtrisé la femme, il a étudié la femme, il a pu écrire sur la femme. Vous voyez un peu. Et c'est pareil, lorsqu'une femme écrit sur un homme, on ne dira pas forcément qu'elle a appris, ou alors qu'elle a, comment dire ça, qu'elle maîtrise le contexte de l'homme, parce que ça va de soi, en fait. La femme est censée connaître justement cet univers de l'homme. C'est ce qu'on se dira. Par contre, quand un homme écrit sur des femmes, sur les problèmes de femmes, bah on lui attribue directement la maîtrise, hein, et la puissance de la maîtrise de son concept. Vous voyez, donc ça diffère effectivement.
Avez-vous déjà observé des cas où une œuvre écrite par une femme est jugée douce, là où la même écriture est signée par un homme serait qualifiée de maîtrisée ou brillante?
C'est vrai que lorsqu'on parle de charme, c'est-à-dire lorsqu'on utilise le mot charme, ça impose toujours une certaine douceur, en fait. Ça, c'est vrai. Ça impose toujours une certaine fragilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une certaine fragilité. Et on peut se dire, voilà, c'est quelque chose d'inoffensif. Donc, oui, parfois, oui, ça peut minimiser la puissance intellectuelle, voilà, de l'œuvre de l'autrice. Parce qu'effectivement, qualifier une œuvre de charmante, ça peut vraiment, véritablement contribuer à l'invisibilité de la rigueur formelle, ou alors de la profondeur même philosophique, ou même de la portée critique du livre en question, vous voyez. Donc le terme peut devenir une cage dorée, une cage douce, mais une cage douce qui plonge quand même dans les profondeurs de la critique. La critique qui se demande, mais voilà, si c'est juste une œuvre charmante, est-ce qu'elle a une portée sur le long terme même? Est-ce qu'elle a une portée sur les vrais problèmes de la société? Ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, les problèmes rencontrés par les femmes sont aussi les problèmes de la société et ne devraient pas être minimisés parce qu'ils sont transcrits par une femme, en fait.
Auditeurs et auditrices de la web radio Éducation, amoureux des belles-lettres, une pause s'impose. Écoutez. Retour en studio pour la suite de nos échanges avec Pauline Ongono, camerounaise, bibliothécaire de formation, présidente acolyte, dont le thème est « Plume de charme et de puissance, quand la femme africaine réécrit les codes de la littérature ». Alors Pauline, quelle autrice africaine contemporaine vous semble avoir cassé les codes classiques du charme littéraire et comment?
Pour les auteurs africaines, voilà, qui ont cassé les codes classiques du charme littéraire. J'avoue qu'il y a des noms qui se bousculent dans ma tête là, mais je vais vous citer. On va commencer par Leonora Miano, la grande Leonora Miano. Et ceux qui l'ont déjà lu savent que voilà, dans ses textes, elle a un langage vraiment dense. Elle a cette maîtrise langagière. C'est très dense. Non seulement c'est dense, mais c'est poétique. Et c'est fragmenté vraiment pour explorer les identités, la mémoire post-coloniale ou même pré-coloniale. Explorer la diaspora, ce qu'on vit dans la diaspora, comment on vit dans la diaspora et tout ça. Donc elle va rompre avec l'esthétique du joli texte qu'on attribue souvent aux femmes, pour donc privilégier la nécessité, la tension, la mémoire, voilà. Maintenant, la deuxième, très connue aussi, c'est Madame Chimamanda Ngozi, qui aussi, entre le récit intime, et la politique, le féminisme, ça va de soi, elle sait écrire le féminisme, en fait. Elle sait l'écrire, et elle écrit tellement bien qu'il devient accessible et percutant. Et une chose qui est accessible, bah, elle peut servir à tout le monde, pas seulement aux femmes. Donc, je citerai seulement ces deux-là.
Assistons aujourd'hui à une écriture féminine qui refuse de séduire pour plutôt déranger, exposer, voire choquer.
Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, l'écriture des femmes, l'écriture féminine, comme vous l'avez appelée, n'est plus là pour juste séduire, non. Aujourd'hui, elle est là pour exposer clairement les choses. Elle est là pour revendiquer clairement les choses. Elle est là pour déranger. Choquer même. Donc oui, certaines autrices privilégient vraiment la vérité à l'ornement. L'écriture n'est plus un espace voilà, vide, maintenant il est un espace de dévoilement. Il dévoile les violences sociales, il dévoile les traumatismes, il dévoile les fractures identitaires. La littérature n'est plus un lieu de confort. Quand vous lisez par exemple Libre de Bibi Shkoun, vous comprendrez aisément que effectivement la littérature n'est plus ce lieu-là où on lisait et où on en ressortait tout sourire. Non. Aujourd'hui, quand ils écrivent, c'est pour bousculer les âmes. Quand vous lisez ce roman, vous sortez de là vraiment bousculé et vous commencez à remettre en question plusieurs choses, notamment les relations enfants-parents, notamment les relations amicales, notamment les relations en couple, notamment le mariage, notamment le divorce, tellement de choses, surtout autour de la santé mentale. Quand vous lisez par exemple Walandé de Djaïli, vous ne ressortez pas de là indemne, vous vous rendez compte de la souffrance qui est celle de plusieurs femmes dans le Sahel. Quand vous lisez les mots parlant de Diane Anichom, quand vous lisez ses poèmes, vous vous rendez compte à quel point ce monde est devenu un film d'horreur. Il ne s'agit plus de faire ici de la poésie, par exemple, pour Diane Anichom. Ce n'est plus faire de la poésie juste pour de la poésie, juste pour le beau des vers. Non, ici, elle expose clairement tout ce qui est mauvais dans la société, en exhortant les uns et les autres pour que les choses changent. Elle propose des solutions en montrant d'abord de manière crue ce qui ne va pas. Donc vraiment, aujourd'hui, les femmes ne sont plus là juste pour vous séduire, non. Elles sont là pour vous choquer. Vous devez sortir de leur livre et en étant choqué. Parce que c'est le choc qui permet de prendre justement les bonnes résolutions.
Qui décide aujourd'hui de ce qui est beau, charmant ou littéraire en Afrique? Les critiques, les éditeurs ou le public?
Vous savez, l'authenticité est une chose unique. Et effectivement, aujourd'hui, on trouve tellement d'œuvres authentiques. On a terminé avec ces poèmes où il fallait dire aux bien-aimés, partir en guerre ou quoi que ce soit, comment il nous manque, comment on se languit de ci, comment on se languit de ça. Non, les femmes sont passées à autre chose. Un peu comme tout à l'heure, je parlais de les mots parlant de Diane Anichom, qui effectivement dit les choses de manière crue. Elle vous le sait crûment et elle attend que vous régaliez, elle attend que vous compreniez que ce monde est en train de partir vraiment en décrépitude. Elle vous le montre de manière crue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'authenticité est déjà, on va dire, elle est plus une élégance formelle aujourd'hui. Elle n'est plus, elle n'est plus ce style qui vous charme. Maintenant, elle va de front. Elle va de front. Elle est rugueuse. Elle est forte. Elle est amère, on va dire comme ça.
Le récent prix obtenu par Kamen Toudono consacre une certaine vision de la littérature africaine. Selon vous, qu'est-ce que ce type de distinction valorise réellement? Le style, le message ou une nouvelle peinture ou posture féminine?
Comme on le sait, les prix littéraires récompensent rarement un seul aspect. Les prix littéraires consacrent une œuvre qui est située dans son époque. Il y a d'autres critères qui apparaissent, pas juste un seul. En ce qui concerne Kamen Toudono et son œuvre qui a été distinguée au récent salon du livre africain, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Kamen a une écriture qui est portée vraiment sur du social, sur tout ce qui est propos et affirmation sur les voix féminines. Voilà déjà une chose qui est pour Kamen. Malheureusement, je n'ai pas encore lu son livre, donc je ne saurais répondre à cette question-là. Mais si jamais, mais je me dis que si le prix en question met en exergue les caractéristiques sur le social, sur le féminisme ou la féminité, sur les voix singulières, féminines bien sûr, et bien d'autres, je vous dirais que voilà, ce texte-là, non seulement il valorise le style, il valorise le message, il valorise la posture féminine. Et ça, je le dis même avant d'avoir lu le livre, parce que des livres de Carmen Toudono, donc que j'ai déjà lu, j'ai retrouvé ces éléments-là chaque fois.
Peut-on y voir une reconnaissance du charme littéraire féminin ou plutôt de sa puissance critique sociale?
Oh, de plus en plus, hein, c'est la critique qui prime. Comme on l'a dit, je l'ai dit plus haut, il ne s'agit plus de charme aujourd'hui. Ce n'est plus le charme à l'état pur comme on le connaissait, qui est désormais le seul esthétique, voilà, qu'on rencontre dans l'écriture des femmes, non? Aujourd'hui, le charme, comme on l'appelle, il devient éthique et politique. Il reste et il demeure ambivalent.
Ces prix participent-ils à redéfinir le canon littéraire africain?
Vous savez, plusieurs auteurs vous diront qu'ils n'écrivent pas pour être reconnus, ils n'écrivent pas pour recevoir des prix littéraires. Ça peut être le cas, oui, ça peut arriver. Mais ce qu'on oublie, c'est que chaque récompense élargit la mémoire littéraire, collective ou même individuelle. Parce que là, elle modifie la cartographie, elle modifie la liste, voilà, la liste des œuvres jugées incontournables. Autrement dit, un livre qui paraît aux éditions KDI, par exemple, en 2026, pourrait détrôner un livre qui a paru chez une grande maison d'édition en Occident ou en Amérique et qui a été jugé à l'époque incontournable. Ou alors, comme on dit souvent, chef-d'œuvre. Mais est-ce qu'on pourrait parler de chef-d'œuvre lorsqu'il y a des milliards de lecteurs et que ces milliards de lecteurs-là proposent aussi des milliards de réactions et de critiques?
Que dire pour conclure?
Mon dernier mot, je voudrais dire au sorti de cet entretien riche avec vous, monsieur, que la femme africaine, aujourd'hui, ne demande plus une place dans la littérature. Parce que lorsque on lui refusait la table, elle est entrée dans un atelier, elle a fabriqué une table qui a accueilli ses prouesses, qui a accueilli ses mots, qui a accueilli ses livres. Alors aujourd'hui, elle redéfinit les différentes tables. Aujourd'hui, elle redéfinit le langage, elle redéfinit les règles du jeu. Elle ne fait plus du charme un simple vernis, non. Mais elle fait du charme une force narrative qui conjugue toutes les émotions, la lucidité, la mémoire et même la puissance d'expression. Merci et n'oubliez pas, lis des livres. Merci infiniment pour cette invitation et à très bientôt.
Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de cette traversée littéraire riche en réflexions, en nuances et en vérités parfois dérangeantes mais profondément nécessaires. Ce que nous retenons, c'est que la littérature africaine ne cherche plus simplement à séduire. Elle questionne, elle bouscule, elle reconstruit. Le charme dont nous avons parlé ce jour n'est pas une fragilité, c'est une force douce, une intelligence sensible, une manière unique de dire le monde avec profondeur, avec grâce et avec courage. À travers les mots, la femme africaine écrit désormais son histoire, impose son regard et redéfinit les règles du récit. Avant de nous séparer de vous, il me plaît de partager cette citation de l'essayiste français Louis de Bonald, je cite, « La littérature est l'expression de la société, comme la parole est l'expression de l'homme. » Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre « Un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur ». Jidas Benzin Awagbe, Jean-Marie Arotondi, Franklin Bignon, Nadia Auditor et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Jidas Benzin Awagbe a assuré la manipulation technique. La coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arotondi. Au micro, je suis Enoch Guidimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Virgule Littéraire. Comme on le dit en allemand, Auf Wiedersehen.
La Virgule Littéraire.
La Virgule Littéraire. La Virgule Littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Virgule Littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc'Action.